Aujourd'hui, 24 octobre, c'est la fête d'un saint malheureusement trop peu connu, qui a pourtant une paroisse à Montréal, Saint-Antoine-Marie Claret. C'est une sorte de Monseigneur Romero, de Monseigneur Elder Camara, de Monseigneur Ruiz, qui fait tellement parler de lui, même aux nouvelles aujourd'hui à Radio Ville-Marie, et qui est évêque dans Chiapas. C'est rempli de toute façon d'évêques courageux à travers le monde en ce 20e siècle. Mais lui, il est du 19e siècle, il est mort en 1870. Il était archevêque de Santiago de Cuba. Quel homme extraordinaire, c'est une vie fascinante. Il a fondé les Fils du Cœur Immaculé de Marie, qu'on appelle plus simplement les Claretins, depuis les années 20 surtout. Les Claretins, d'après son nom de famille, Antoine-Marie Claret, qui était un Catalan. C'est aussi la fête de Saint-Raphaël aujourd'hui. Nous avons ici un réalisateur extrêmement compétent qui s'appelle Raphaël Pirro, un Italien, oui, de Naples, originaire de cette région et qui est au Québec depuis tellement longtemps, qu'il est vraiment québécois. Il a fait des émissions religieuses à Radio-Canada pendant 35 ou 40 ans, je ne sais plus trop, et puis... Il en fait maintenant ici à Radio Ville-Marie. C'est aussi la fête d'un évêque martyr au 4e siècle, au tout début du 4e siècle, Saint-Félix. Je vous parlerai donc au début de ce Saint-Félix simplement pour vous montrer que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des évêques courageux, des évêques étonnants, des évêques absolument remarquables. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Saint-Félix était évêque de Tibouaca, près de Tunis. La Tunisie, comme d'ailleurs le Maghreb, comme d'ailleurs la plupart des pays musulmans aujourd'hui, étaient des pays chrétiens. Tibouaca plutôt, aurais-je dû dire, qui s'appelle aujourd'hui Zoustina, qui est c'est une ville qui n'était pas loin de Carthage, qui était un centre extrêmement important de l'Empire et aussi du christianisme à la fin du 3e siècle et au début du 4e. C'était pourvu d'un évêché dès le temps de l'empereur romain Dioclétien, qui a tant fait parler de lui, n'est-ce pas, pour ses persécutions à l'égard de l'Église catholique, puisqu'il n'y avait que des catholiques à l'époque, ou à peu près, puisqu'il n'y avait très peu de schismes. Et son évêque de Tibouaca, Félix, était un des plus illustres évêques. C'était une des plus illustres victimes, n'est-ce pas, de cette persécution qui a été lancée à la fin de février de l'an 303, et qui obligeait les chrétiens à livrer les livres saints et même les édifices du culte, les églises et basiliques, etc. Et c'était très, très sévère en Afrique du Nord. On a des actes, comme les actes des apôtres, cette première histoire de l'Église, qui est juste après les évangiles, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, comme chacun sait, eh bien, on a les actes de Saint Félix. Ça nous est parvenu. On en a différentes versions, mais on peut, par des études très spécialisées en histoire, qui ont été faites en particulier par le père de Lehaye, on peut reconstituer une traduction qui est en tout point exacte. Et tout porte à croire que le récit a été écrit par un témoin, aussitôt après l'événement, du martyr de Saint-Félix. On peut se demander s'il a copié les procès-verbaux des interrogatoires, hein? Parce qu'il y avait des gens qui prenaient des notes, ce qu'on appelle le greffe, c'est toujours comme ça, et on se demande s'il les a pas plutôt reproduits de mémoire. C'est peut-être la seconde hypothèse qui est la plus probable, et on voit que c'était quelqu'un qui avait une mémoire fidèle, on peut le voir par certains détails, hein? Et ça ne saurait faire de doute même. Et les épisodes se succèdent dans un ordre tout à fait logique. Le magistrat municipal de Tibouaca, qui s'appelait Manilien, fait comparaître d'abord des clercs, c'est-à-dire des gens qui se destinent au sacerdoce ou qui le sont, Puis, l'évêque, lui, est absent, et il le fait comparaître un peu plus tard, lorsqu'il revient chez lui, après un voyage. Alors, comme il n'a pas le pouvoir, ce magistrat municipal, de condamner à mort l'évêque, il le renvoie au proconsul, qui siège à Carthage. Alors, le proconsul romain, n'est-ce pas, l'Empire romain, comme il n'était pas là, bien, l'évêque est interrogé par le légat, qui le garde en prison, jusqu'à ce que le proconsul le fasse comparaître. Alors, c'est tous des détails qui nous indiquent que c'est exact, on n'invente pas des choses, des détails comme ceux-là. Et le refus de l'évêque Félix de livrer les livres saints et de se soumettre à la loi, ce qui serait contraire à sa foi profonde, ne peut avoir d'autre terme, finalement, qu'une sentence de mort. Et elle est prononcée, puis elle est exécutée aussitôt. Alors voici le texte très ancien, qui date d'environ l'an 303, puisqu'il est mort à cette époque, et qui est pas très long, et je vous le lis parce que c'est un document qui est très émouvant. Alors il est écrit, Dioclétien, Auguste, étant consul pour la 8e fois, et Maximien pour la 7e, fut publié par toute la terre un édit des Césars, il y avait plusieurs Césars, et des empereurs, qui ordonnait que, dans toutes les colonies et cités, les princes et les magistrats, chacun dans son ressort, arrachent les livres saints, les livres divins, de la main des évêques et des prêtres. L'affiche fut posée dans la cité de Tibiuca, le jour des nonnes de juin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le 5 juin de l'an 303. Je continue la lecture du texte. Le curateur Manilien ordonna qu'on lui amena les anciens du peuple parce que l'évêque Félix était parti à Carthage ce jour-là. Il ordonna donc qu'on lui amena le prêtre Appert et les lecteurs Cyrille et Vital. Le curateur Manilien leur dit, et il y a tout un dialogue, c'est presque une pièce de théâtre. Le curateur dit donc, avez-vous des livres divins? Appert répond, nous en avons. Le curateur lui dit, donnez-les pour qu'on les brûle. Alors, Appert ajoute, notre évêque les a chez lui. Le curateur lui dit, où est-il? Et Appert lui dit, je ne sais pas. Le curateur Manilien lui dit, vous serez donc à la disposition de la justice jusqu'à ce que vous rendiez raison au proconsul. Et le lendemain, l'évêque Félix revint de Carthage à Tibiuca. Et le curateur Manilien ordonna alors qu'on lui amena l'évêque Félix. Et le curateur Manilien lui dit, tu es l'évêque Félix? Et l'évêque Félix lui dit, je le suis. Le curateur Manilien lui dit, donne les livres et les parchemins que tu as. Et l'évêque Félix lui répond, j'en ai, mais je ne les donnerai jamais. Le curateur Manilien lui dit, donne les livres pour qu'ils puissent être brûlés. Et l'évêque Félix lui répond, il vaut mieux que ce soit moi qui sois brûlé, plutôt que les Écritures divines. Car il est meilleur d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Et là, le curateur lui dit, ce que les empereurs ont ordonné passe avant ce que tu dis. Et l'évêque Félix lui dit, le commandement du Seigneur passe avant celui des hommes. Alors Manilien lui dit, réfléchis pendant 3 jours. Car si tu négliges d'accomplir dans notre cité ce qui a été ordonné, tu iras au proconsul et tu exposeras devant son tribunal ce que tu dis maintenant. Alors après le 3e jour, le curateur ordonna qu'on lui amena l'évêque Félix. Il lui dit, as-tu réfléchi? L'évêque Félix lui répond, ce que j'ai dit, je le redis maintenant et je le répéterai devant le proconsul. Alors le curateur Manilien lui dit, tu iras donc au proconsul et tu lui rendras raison. Alors on amène l'évêque Félix, qui part de Tibiuca pour Carthage, le 18 des calendes de juillet, c'est-à-dire le 14 juin 303. Et quand il fut arrivé, ajoute le texte, On le remit au légat, et le légat ordonna de le jeter dans un cachot. Le lendemain, avant le jour, l'évêque Félix fut amené. Le légat lui dit, « Pourquoi ne rends-tu pas les écritures inutiles ?» Et l'évêque Félix lui dit, « J'en ai, mais je ne les donnerai jamais. » Le légat ordonna alors de le mettre dans les profondeurs de la prison. 16 jours après, l'évêque Félix enchaîné fut amené au proconsul. À la 4e heure de la nuit, le proconsul lui dit, « Pourquoi ne rends-tu pas les écritures qui sont inutiles ?» L'évêque Félix répondit, « Je ne les donnerai jamais. » Le proconsul ordonna alors de l'exécuter par le glaive, et c'était le jour des Ides de juillet, c'est-à-dire le 15 juillet 303. La fin de ce texte se lit ensuite, et c'est très beau. C'est un texte, n'est-ce pas, qui date de... Mon Dieu, de près de 1700 ans que je vous lis actuellement. Hein. L'évêque Félix, élevant les yeux au ciel, dit d'une voix claire, « Dieu, je te rends grâce. J'ai 56 ans dans ce monde. J'ai gardé la virginité, j'ai observé l'Évangile. J'ai prêché la foi et la vérité. Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, Jésus-Christ, toi qui demeures éternellement, je courbe mon cou vers toi comme une victime. À toi la clarté et la magnificence dans les siècles des siècles. Amen. » Et ces actes, ce texte termine ainsi, cette prière terminée, il fut amené par les soldats, décapité et déposé sur la route dite des Silitains, dans la basilique de Faustus. On célèbre sa fête depuis très longtemps, le 24 octobre. Et maintenant, nous passons à un archange, Saint Raphaël. On l'a célébré, mais bien vaguement, le jour de la fête de Saint-Michel, le 29 septembre. Il y a près d'un mois. Et je tiens à vous parler de Saint Raphaël. Je connais un petit Raphaël qui est bien sympathique. Mais je voudrais vous parler de Raphaël, non pas seulement parce que c'est le patron de notre ami Raphaël Pirot, réalisateur ici à Radio Ville-Marie, autrefois à Radio-Canada, mais parce que c'est l'histoire charmante tirée de l'Ancien Testament. C'est un très beau conte, car on ne parle de Saint Raphaël, en fait, vraiment que dans le livre de Tobie. Évidemment qu'on ne peut pas retracer la vie d'un saint ange ou même d'un archange. Tout ce qu'on peut, c'est raconter l'histoire, c'est-à-dire le moment où il intervient dans l'histoire des êtres humains. Et il serait intervenu dans l'histoire de Tobie. Je considère ça plutôt comme un conte. C'est une histoire merveilleuse. Mais c'est une révélation. Hein? Ça fait partie de la Bible, de la révélation. Tobit, dans l'Ancien Testament, on l'appelle Tobit l'Ancien, c'est le père de Tobie, T-O-B-I-E. Il était un juif fort pieux qui avait été déporté en Assyrie. Il était devenu aveugle par accident. Est-ce que je devrais dire qu'il était handicapé visuel plutôt qu'aveugle? Je vais dire aveugle, je m'en excuse auprès de ceux qui n'aiment pas ce mot, que je trouve personnellement respectueux et fort beau. Il était donc devenu aveugle par accident. Il s'est fait insulter par sa femme, Anna, qui lui reproche sa charité. Et puis, elle lui reproche aussi d'être trop scrupuleux dans l'exercice de la justice. Et Sarah, qui est fille de Raguel, parent de Tobit, qui est déportée en Médie, se fait insulter, elle, par sa servante, pour avoir eu 7 maris qui tous étaient morts, imaginez, au soir des noces. L'explication va venir pourquoi il meurt comme ça, le soir des noces. Donc, Tobit, le père, et Sarah, chacun son côté, supplie Dieu de les aider, l'un de le guérir de sa cécité et l'autre de la guérir de cette perte de ses maris en Syrie, ça n'a pas de sens. Dieu envoie donc Raphaël pour les guérir tous les deux. Alors donc le premier sera guéri de sa cécité et la seconde du mauvais sort causé par un démon. Raphaël donc est un ange dont le nom signifie « Dieu guérit ». Alors Tobit veut envoyer son jeune fils Tobie en Médie pour recouvrer une somme d'argent déposée chez un certain Gabaël. Alors Raphaël, sous une forme humaine et sous un nom d'emprunt, il se fait appeler Azarias, s'offre pour l'accompagner et en route au bord du Tigre. Qu'est-ce que le Tigre, vous vous souvenez? Surtout ceux qui font des mots croisés. C'est un fleuve de Mésopotamie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est dans l'Irak actuel. Le Tigre arrose la ville, justement, de Bagdad, dont il a été souvent question dans les nouvelles au cours des dernières années. Donc, en route au bord du Tigre, on prend un gros poisson, et écoutez bien ça, dont le fiel, le cœur et le foie vont, sur l'indication de l'ange Raphaël, servir de remède pour guérir nos deux personnages. Vers la fin du voyage, sur le point de demander l'hospitalité à Raguel, l'ange, sous le nom d'Azarias, avertit Tobie que Sarah lui est destinée pour femme et qu'il la demande en mariage le soir même et qu'il n'ait pas peur d'avoir le sort des sept époux précédents. Il n'en mourra pas comme les autres maris. Parce que le foie et le cœur du poisson brûlés sur les braises vont chasser le démon. Quelle étrange histoire. Et en effet, on dit que l'odeur du poisson a incommodé le démon, qui s'est enfui dans les airs jusqu'en Égypte, raconte le livre. Quel étrange conte, hein? Ça ferait un film amusant. Et donc l'archange Raphaël l'a poursuivi, le démon, et puis il l'a garrotté sur le champ et l'a empêché d'agir en Égypte. Et l'archange revient, la forme d'Azarias, alors on s'occupe de célébrer les noces, et l'heureux Tobie envoie le messager céleste, Raphaël, achever sa mission auprès de Gabaël. Et là, les noces célébrées pendant 14 jours, les jeunes époux se mettent en route pour retourner auprès des parents qui sont très inquiets, et Raphaël les accompagne toujours. Il y a quelques heures de la maison paternelle, là il prend de l'avance avec Tobie. Et puis, il lui recommande quoi? De oindre les yeux de son père Tobit avec le fiel du poisson. Alors, rentrant au foyer, le fils Tobit se jette dans les bras de sa mère. Puis, il va vers l'aveugle Tobit. Il applique sur les yeux le fiel du poisson et en un instant, il en retire quoi? Une petite peau. Merveille! L'aveugle voit. Alors là, on rend grâce à Dieu, on s'embrasse. Sarah arrive, et l'action de grâce et la joie redoublent, car on célèbre à nouveau les noces. Et à la fin des noces, Tobit, le père, ordonne à son fils de rémunérer largement son compagnon Azarias pour ses services et de le renvoyer. Alors Azarias, qui est Raphaël, l'ange Raphaël, révèle son identité. Il déclare « Je suis Raphaël, l'un des sept anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur. » C'est ça, Raphaël. Quelqu'un qui est toujours prêt à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur, c'est-à-dire cette espèce de rayonnement immédiat. On voit ça dans les représentations particulièrement très anciennes au tympan des cathédrales romanes ou gothiques. Le Christ est en gloire, dit-on, c'est-à-dire qu'il est comme dans une espèce de grande forme ovale qui rayonne autour de lui. C'est une façon d'indiquer la divinité. Et c'était lui, donc, Raphaël, qui présentait les prières de Tobit et de Sarah. Tobit, qui voulait se guérir, je le rappelle, de sa cécité, et Sarah, de ce sort épouvantable que lui avait donné le démon. Et aussi bien, ce n'est pas à lui, à Raphaël, qu'on doit sa présence, mais à la volonté de Dieu. Car c'est à Dieu qu'il faut rendre grâce, toujours. C'est le sens de ce beau livre de Tobit, qui nous enseigne qu'on doit rendre grâce à Dieu, des grâces que les saints nous obtiennent. Et je crois que c'est très important pour cette série d'émissions sur les saints, où les gens supplient les saints, demandent, et on obtient d'ailleurs par l'intermédiaire des saints, avant leur canonisation, leur béatification, des grâces particulières. Je vous raconterai d'ailleurs certains miracles absolument stupéfiants, même au XXe siècle, qui sont obtenus par l'intervention de certains saints qui sont canonisés au cours des dernières années. Et vous verrez comme c'est surprenant, je vous en ai déjà raconté d'ailleurs. Alors, dans ce qu'on appelle la Sainte Bible, c'est le nom qui a été traduit en français, n'est-ce pas, sous la direction de l'École biblique de Jérusalem, qui est parue dans les années 50 en différents fascicules, et finalement, qui est devenue la Bible de Jérusalem. Eh bien, dans le livre de Tobie, au début, qui a été traduit par le père Potrel, un jésuite, il explique que le sens aussi qu'on peut retrouver dans ce livre, c'est que la foi en des êtres célestes, dont la fonction essentielle est de rendre gloire à Dieu, mais qui s'emploie aussi à lui présenter les prières des hommes, bien c'est une vérité qui nous est finalement enseignée par la Bible, comme on le voit dans ce livre de Tobie. Et les anges, d'après ce livre, lui servent d'instrument à Dieu dans le soin qu'il prend des âmes des justes pour les assister, les consoler, les guérir. Et c'est de là que vient probablement cette foi très répandue dans les anges gardiens aussi. Le culte à Raphaël, je vous en ai parlé passablement le 29 septembre lors de la fête de Saint-Michel et de Saint-Raphaël, que le culte des anges est aussi ancien que le christianisme. Nous l'avons évidemment, comme je viens de vous montrer, hérité du judaïsme. Il semble s'être développé d'ailleurs dans les premiers siècles, surtout en Orient. Et le nom de Raphaël se trouve associé dans les anciennes inscriptions, là, à ceux de Michael, Michel, et de Gabriel. Et aussi de quelques autres noms supposés, de sept archanges, dont parle d'ailleurs le livre de Tobie. Et c'est d'Orient que la dévotion aux anges a dû se répandre en Occident. Nous en avons un témoignage, d'ailleurs, dans les litanies des saints, dont les origines, qui nous semblent plutôt obscures, semblent vraiment remonter au temps de ce pape qui venait d'Orient, Serge, qui a régné de 687 à 701. Il était né à Antioche. C'est lui qui a introduit l'Agnus Dei dans la messe. Et les archanges Michel, Gabriel et Raphaël sont invoqués même avant la Sainte Vierge dans ce temps-là. C'est aussi vers la même époque que les conciles de Soissons et de Rome, en 744 et 745, ont prescrit que désormais, on ne nommera plus dans le culte que ces trois archanges et non pas les quatre autres. Au XVe siècle, la dévotion à Saint-Raphaël, comme patron des voyageurs, paraissait particulièrement répandue et on voit alors se multiplier les images de Saint-Raphaël que l'on faisait peindre pour protéger un parent en voyage. On le voit ça dans les livres d'Émile Malle, ce grand spécialiste de l'art médiéval. On sait que le culte des anges s'est beaucoup développé au 16e, 17e siècle, surtout en Italie, en réaction contre les protestants, Luther, Calvin, et un office de Saint-Raphaël, ange de la médecine et des voyageurs, fut accordé à l'ordre de Notre-Dame de la Merci pour la rédemption des captifs. Puis à la ville de Venise, c'est le 22 mai 1683 que la dévotion s'est répandue un peu partout dans le monde, à partir de l'Espagne aussi. Alors donc on peut invoquer Saint-Raphaël comme un médecin, comme un gardien. Il serait donc le patron de la médecine. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne, qui je tiens à vous parler maintenant de Saint-Antoine-Marie Claret. Quel grand évêque, cet archevêque de Santiago de Cuba. Originaire d'Espagne, c'est-à-dire originaire en principe de Catalogne, pour pas confondre les Catalans et les Espagnols. Les Catalans n'aiment pas tellement ça, car beaucoup de Catalans aspirent à la liberté de ce qu'ils considèrent comme leur pays. C'est le 23 décembre 1807, au même moment où Napoléon Ier envahissait l'Espagne, que naît, dans le diocèse de Vic, en Catalogne, cet homme qui devait être l'un des plus actifs défenseurs de la foi au 19e siècle, Antoine Claret, ou Clarette y Clara. Sa mère s'appelait Clara, de son nom de famille, son père Claret, C-L-A-R-E-T, et les Espagnols, comme les Catalans, portent à la fois le nom de leur père, ajoutent un Y, et, qui veut dire « et puis le nom de la mère. Vic, en Catalogne, j'y suis déjà allé, car j'avais visité en Catalogne à peu près tout ce qu'il y avait d'intéressant d'art roman. Et j'avais visité en particulier l'abbaye royale de Poblette, et aussi évidemment le monastère du Montserrat, mon grand monastère bénédictin aussi. Et l'abbé de l'abbaye de Poblette m'avait remis un livre magnifique qu'il avait écrit en catalan sur son monastère. Et ne pouvant pas lire le catalan, je peux lire un peu l'espagnol, mais pas le catalan, qui ressemble quand même. Je l'avais remis un catalan réputé ici au Québec, Jacques Folc Ribas, auteur de nombreux romans et qui collabore au journal La Presse le samedi par des articles littéraires. Je connais assez bien Jacques Folc Ribas. Donc, notre Antoine-Marie Claret, catalan, était le cinquième de 11 enfants. Son père était un tisserand plutôt modeste. Il gagnait tout de même assez d'argent pour élever sa famille. Mais il tenait vraiment à se faire aider par ses enfants quand ils avaient grandi. Alors Antoine, qui avait montré une piété précoce, puis avait commencé l'étude du latin avec son curé, a dû se mettre au métier de tisserand comme les autres. À 17 ans, son père a trouvé qu'il était peut-être capable de se perfectionner. Il l'a envoyé à Barcelone, qui est la grande ville de la Catalogne, dans une entreprise plus importante. Alors, comme il était très adroit manuellement, Antoine Claret, puis il avait une conscience professionnelle remarquable, ça aurait pu lui assurer une situation qui lui aurait rapporté pas mal d'argent, hein. Et puis, il était tenace, hein. Il avait réussi à apprendre le français, le latin, puis l'imprimerie, en suivant les cours du soir. Mais Antoine Claret avait d'autres désirs. Il avait un désir de vie parfaite. Ça ne l'avait jamais abandonné depuis sa plus tendre enfance. Alors, quoi? Il a songé, comme j'ai d'ailleurs songé moi aussi quand j'étais jeune, c'est un peu absurde au fond, il a songé à entrer chez les Chartreux. Le 29 septembre, à la fête de Saint-Michel, justement, de Saint-Gabriel, de Saint-Raphaël. En 1829, il y a rencontré là Jacques Balmès, qui a pas vécu bien longtemps, 38 ans, de 1810 à 1848, et qui a eu une grande influence pour essayer de renouveler la pensée chrétienne catholique en Espagne. Alors, ils se sont liés d'amitié, et puis ça n'a pas modifié l'orientation de son activité, qui a toujours gardé un caractère profondément pratique. Antoine Claret s'est montré un parfait séminariste. Il a reçu les ordres très régulièrement, là, de la tonsure. Vous savez qu'on recevait la tonsure il n'y a pas si longtemps dans les grands séminaires. On se faisait couper un peu de cheveux, puis on avait comme une forme d'hostie, disaient certaines personnes, sur le haut du crâne. C'était un signe, n'est-ce pas, de consécration à Dieu, ça. Ça ne se donne plus maintenant. Alors, ça a commencé donc le 2 février 1832 par la tonsure, et ça s'est rendu jusqu'à l'ordination sacerdotale au jour de la Pentecôte, le 13 juin 1835. Et là a commencé une guerre. Antoine Claret a été nommé vicaire, puis économe de sa paroisse natale, de Salente, dans le diocèse de Vic. C'est là qu'il a exercé le ministère sacerdotal, puis a achevé ses études théologiques. Et en 1839, il n'était pas toujours certain de sa vocation. Il est parti pour Rome, afin de se mettre à la disposition de ce qu'on appelle la congrégation de la propagande. Et n'imaginez rien avec la congrégation de la propagande. Ça veut dire simplement, pour ceux qui l'ignorent, un ministère, si vous voulez, dans un gouvernement de l'Église. On appelle ça une congrégation. Et ce ministère de la propagande, c'est simplement pour propager la foi. C'est de là que ça vient, propagande. C'est pas de la propagande dans le mauvais sens du terme, évidemment. Car notre Antoine Marie Claret voulait aller en mission. Le cardinal préfet de cette congrégation, de ce ministère, était absent. En attendant une réponse à sa proposition, Antoine Claret est allé suivre les exercices chez les jésuites, et on peut les suivre, les exercices chez les jésuites, même à Montréal, vous pouvez vous téléphoner chez les jésuites. Ça se suit à Montréal, ça se suit surtout à Saint-Jérôme, dans la grande maison des jésuites à Saint-Jérôme. Donc, il a suivi les exercices. Ça peut durer une semaine, comme un mois, les exercices spirituels de Saint-Ignace, hein, de Loyola. Alors là, le père jésuite auquel il s'est adressé, il l'a jugé capable d'entrer chez les jésuites. Et notre saint, Antoine Claret, accepté volontiers, mais il n'est pas resté longtemps. Il est entré le 2 novembre 1839. Il a commencé son noviciat, mais il y avait une plaie tout à coup qui s'est formée à sa jambe. Ça l'a obligé de sortir cinq mois plus tard, le 3 mars 1840. Alors, il est revenu en Espagne. Il était entré à Rome, en Italie. L'évêque de Vic, en Catalogne, donc, l'a nommé curé de Viladrau. Et le 15 août, en fait, l'Assomption, le nouveau curé a entrepris de donner une espèce de mission, c'est-à-dire une série de sermons, où il a obtenu un tel succès qu'on lui a demandé de prêcher dans les paroisses voisines, mais ça, il pouvait plus être curé en même temps, alors son évêque l'a déchargé de sa charge de curé, puis après un court séjour à Girona, où je suis déjà aussi allé, Antoine Claret est venu s'établir à Vic, d'où il a rayonné dans toute la Catalogne. Là, il prêchait à toutes sortes d'auditoires. Simplement, il prêchait simplement. Mais avec une telle flamme que ses auditeurs, l'écoutaient très, très, très attentivement. Et pour compléter ses sermons, il s'est mis à écrire plus de 150 livres et brochures, d'innombrables tracts. Il avait écrit « Le chemin droit et sûr pour aller au ciel », qui est paru dès 1843. Ça a eu près de 200 éditions. Ses premiers ouvrages ont été composés en catalan. Il les ordonna en espagnol, langue dont il s'est servi presque toujours par la suite. Puis, comme il parlait aussi très très bien le latin, le français, il n'a pas cherché à avoir une doctrine spirituelle originale. Son but, c'était de présenter l'Évangile au peuple en insistant sur les grandes vérités, puis en donnant surtout de l'amour, de l'affection, puis de l'estime à l'égard de quoi? Du devoir d'État. Car c'est dans le moment présent qu'on rencontre Dieu. C'est ça qu'on appelle le devoir d'État. Faire ce qu'on a à faire au moment présent, hein? Alors, il recommandait les exercices de piété très classiques, là. Il attachait une grande importance, d'ailleurs, à la dévotion à la Sainte Vierge. Puis, il voyageait toujours à pied, emportant dans un mouchoir tout son bagage, qui se composait, en somme, presque rien que de son bréviaire, c'est-à-dire de son livre de prière, là, pour les jeunes qui écouteraient, ou des gens qui connaissent moins le catholicisme. Un bréviaire, c'est les prêtres et tous les gens qui veulent le réciter. Ce sont des prières que l'on récite en principe, 7 ou 6 fois par jour. Et puis, il transportait sa Bible. Ben oui, sa Bible, oui, la Bible. C'est pas rien que les protestants qui lisent la Bible. Puis, il n'acceptait aucun honoraire. Il ne se faisait pas payer, il se contentait de peu, puis il dormait que quelques heures chaque nuit. Il prêchait chaque jour, souvent plusieurs fois, très longuement. Il passait ensuite des journées, des nuits au confessionnal. Les pénitents attendaient indéfiniment leur tour, ça se bousculait pour essayer de passer plus vite. C'est pas surprenant, hein? Et on pourrait dire que c'est le patron des fumeurs dans un sens, car on lui attribue un drôle de miracle. Je trouve ça très curieux. Le Christ d'abord et la Sainte Vierge lui seraient apparus, puis il aurait accompli des guérisons extraordinaires. Un aveugle, un bossu même. Et un jour, il aurait sauvé, et voilà, c'est là le miracle très étrange, il aurait sauvé un brave contrebandier. Comment il a changé en haricot, en fèvre, si vous voulez, devant les douaniers, le tabac que ce contrebandier transportait en fraude et qui est redevenu du tabac en arrivant à la maison. Bon, alors, il serait donc le patron des fumeurs, hein? C'est moi qui ajoute ça. Bon, le succès de tout son apostolat, soyons sérieux, lui a valu des haines épouvantables. Comme à Monseigneur Romero qui est mort martyr. Comme à Monseigneur Alder Camara auquel on a tenté à sa vie. Je ne sais combien de fois Monseigneur Camara, il me l'a dit personnellement. C'est terrible, Monseigneur Ruiz actuellement aussi qui est menacé de mort. Au Mexique, hein? Et quantité d'autres évêques. Il y a d'ailleurs un évêque claretien au Brésil qui est menacé de mort. Alors, s'il avait assez de courage pour ne pas s'émouvoir des cris et des injures qui interrompaient même ses sermons, même s'il s'énervait pas quand il recevait une orange à la figure alors qu'il était en chair, hein? Il s'excitait pas non plus quand des brigands menaçaient de le tuer pour le voler. Il a compris, en février 1848, qu'il lui fallait quitter la Catalogne, car sa vie était trop menacée. Il a dû abandonner une librairie religieuse de Barcelone qu'il venait de fonder, car c'était un homme qui encourageait les moyens de communication. Puis, il a abandonné les nombreuses congrégations et confréries dont il s'occupait. Il s'est rendu aux îles Canaries, dans l'Atlantique, là. Ce sont des îles espagnoles, où pendant 15 ans, il a prêché inlassablement. Je connais des gens qui viennent des îles Canaries, qui ont un intéressant magasin, boulevard Saint-Laurent, où ils vendent du lampe électrique. Ce sont des gens merveilleux, des catholiques profondément convaincus. Mais son attrait pour la vie religieuse était toujours très, très vivace. Et les lois révolutionnaires en Espagne, déjà à cette époque, qui avaient dissous des congrégations puis les ordres, ça a entraîné chez Antoine Claret le désir de restaurer ces grands états de perfection en constituant des confréries de prêtres, à moitié secrètes, là, puis en donnant aux âmes d'élite qu'il rencontrait des directives vraiment fermes pour leur permettre de mener dans le monde une véritable vie religieuse qui les mènerait à la sainteté. Alors les premiers essais ont réussi, mais il les a jugés insuffisants, puis à son retour en Espagne, il a réuni 5 prêtres au séminaire de Vic le 16 juillet 1849, et c'est là qu'il a jeté les bases de cette nouvelle congrégation qu'on appelle la Congrégation des missionnaires fils du cœur immaculé de Marie, et qui sont connus sous le nom de Claretins. Là, le 4 août, Antoine Claret a appris que le pape Pie IX venait de le nommer, sur la demande de la reine Isabelle II d'Espagne, archevêque de Santiago de Cuba. C'était simplement quelques jours après avoir fondé sa congrégation, et il a été sacré le 6 octobre de l'année suivante, 1850. Il a ajouté à cette occasion à son nom celui de Marie, Antoine-Marie Claret. Il s'est embarqué le 28 décembre 1850. Il est arrivé presque deux mois plus tard, le 18 février 1851, dans son diocèse à Cuba, où la situation religieuse, là, c'était pas drôle. Hein? Les prêtres étaient trop peu nombreux. Ils étaient extrêmement pauvres, peu instruits. Alors, il a organisé des séances d'études au séminaire. Il s'était forcé d'assurer aussi des revenus suffisants pour chacun de ses prêtres, tout en réduisant au minimum les dépenses de l'archevêché. Il a obtenu de faire revenir des religieux expulsés. Et dès son arrivée, il a prêché le carême à Santiago. Puis il entreprit de visiter tout son diocèse, et moins de 2 ans après, il avait terminé. Il avait distribué près de 100 000 livres et brochures, près de 85 000 images, plus de 20 000 chapelets, plus de 8 000 médailles. Vous direz, c'est sans intérêt. Vous savez, c'est pas si bête que ça. Auprès des gens, moi, quand je donne une image à des enfants aujourd'hui, c'est incroyable ce que les enfants sont contents. Et je me souviens que mon fils, qui ne savait absolument pas dire le chapelet, quand je lui ai offert pour la première fois un chapelet, il était ravi. Ce grand garçon de 20-quelques années, un peu délinquant sur les bords, était tout heureux. Il y a comme une espèce de mystère sacré dans ces objets religieux que les gens simples touchent, et même des gens plus avertis. Et une médaille, il n'y a rien de mal à porter une belle médaille. Pourquoi pas? C'est comme une image sainte, c'est comme une icône. Alors il s'est remis en route, Antoine Claret, pour recommencer. Pendant 6 ans d'épiscopat, écoutez bien ça, il a fait 3 visites complètes. Il entamait la 4e visite. Il a prononcé 11 000 sermons. Il a régularisé 30 000 mariages. Il a confirmé plus de 300 000 personnes. Il ignorait la fatigue. Il s'inquiétait pas des incidents de la route qu'il faisait à pied ou à cheval. Il mangeait ce qu'il trouvait. Il traversait des marais, des rivières qui étaient grossies par les pluies. Il se mêlait sans avoir peur de la contagion à tous ces malheureux qui étaient atteints par le choléra, car il savait que les vraies difficultés lui viendraient plutôt des adversaires du catholicisme et de ceux dont il dérangeait les habitudes qui étaient franchement immorales. Il a lutté contre l'esclavage des Noirs qui existait encore à Cuba. Et son attitude comme archevêque a mécontenté tellement certains propriétaires d'esclaves qu'ils l'ont traité de révolutionnaire. Et d'autres, des autonomistes cubains qui voulaient libérer Cuba, lui reprochaient d'être espagnol. Alors là, l'opposition des pouvoirs publics s'est opposée à lui, à son action. Il n'a pas pu réaliser son projet d'école d'agriculture qui lui aurait permis de consolider l'évolution spirituelle et économique des pauvres gens de l'île de Cuba. Et là, en réconciliant aussi les époux séparés, en régularisant les mariages imaginés et en recourant au besoin à l'excommunication pour briser les unions irrégulières, ben, il s'est assuré des haines encore plus violentes. Il y a eu 15 attentats contre sa vie. C'est incroyable, rien n'a changé, pensait Mgr Romero, Mgr Elder Camara. Et le soir du 1er février 1856, en sortant de l'église d'Holguin, il a reçu un coup de couteau à la figure, ça lui a ouvert la joue gauche. La blessure était si grave qu'on a pensé qu'il en mourrait. Mais, heureusement, ça s'est guéri assez rapidement. C'était considéré d'ailleurs comme un miracle. Et le 18 mars 1857, notre archevêque, Saint-Antoine-Marie Claret, est mandé en Espagne par la reine Isabelle. Se demandait ce qu'elle lui voulait. Il a pensé qu'on voulait lui faire des reproches à cause de son action apostolique. Alors il s'est présenté devant la reine avec un peu de crainte. Mais elle lui a déclaré qu'elle l'avait choisi comme confesseur. Alors, après quelques hésitations, il a accepté. Parce qu'il fallait vraiment qu'il quitte Cuba, sa vie était encore en danger, hein? Comme elle l'avait été en Catalogne. Alors il a accepté, sans vouloir demeurer à la cour, d'être le confesseur de la reine. Et jusqu'en 1860, où il a été nommé archevêque titulaire de Trajanopolis, vous savez qu'on donne comme ça des noms d'anciennes villes catholiques ou chrétiennes à des évêques, c'est ce qu'on appelle des évêques ou archevêques titulaires. C'est des villes qui sont devenues musulmanes ou qui sont païennes aujourd'hui. Alors, il a continué d'administrer Cuba depuis la ville de Madrid, où il était le confesseur de la reine. Il était petit, un peu gros, la figure ronde, la figure creusée de cicatrices, la barbe et les cheveux noirs. Et assez épais, il avait un front large, des yeux vifs, il était naturellement énergique et même, écoutez bien ça, il était assez naturellement irascible. Il savait se contrôler. Et ce nouveau confesseur de la reine s'est imposé par sa sainteté, qui lui a valu un prestige énorme dans toute l'Espagne. Il a usé son influence pour faire désigner de bons évêques, car c'était souvent les pouvoirs politiques qui nommaient les évêques à cette époque. Il a organisé un centre d'études ecclésiastiques à l'Escurial, la résidence royale. Et il a obtenu un peu plus de sérieux aussi dans la vie de la cour. Il a profité des voyages de la reine pour prêcher, pour confesser à travers toute l'Espagne. Sa position lui a valu encore la haine féroce des ennemis du régime. Ils étaient nombreux. Il n'a pas voulu jouer un rôle politique. On lui a attribué une influence absolument déplorable dans des événements bien malheureux qui se sont succédés. On a écrit contre lui des chansons, des romans, des comédies, on l'a ridiculisé, on le calomniait de toutes sortes de façons, on a répandu des caricatures contre lui. Et en novembre 1868, eh bien, la révolution a chassé la reine Isabelle, qui a dû se réfugier à Pau, dans le sud de la France, hein, c'est près de Lourdes, ça. Puis finalement, la reine s'est réfugiée à Paris. Alors, le confesseur, Antoine-Marie Claret, cet évêque, cet archevêque, là, qu'on l'a suivi, il s'est montré intraitable sur la question de Rome, de la liberté des États romains, des États du pape. Il avait interdit à la reine de reconnaître le nouveau royaume d'Italie qui prenait possession des États du pape. Alors, il était un peu conservateur sur ce point-là. Mais là, contrainte par les événements, la reine s'est résignée en 1865. Et là, solidaire de l'épiscopat, il a toujours refusé de l'approuver, mais sur le conseil de Pie IX, qu'il avait été consulté, il est resté à son poste. Quand la reine, détrônée, a perdu la plupart de ses amis, il l'a suivie pour continuer à la soutenir de ses conseils, puis veiller à l'éducation de ses enfants, des princes et des princesses. Et la congrégation des missionnaires, c'est-à-dire des clarétins, s'est développée lentement. Leur constitution a été approuvée par Rome en 1866, et là, la révolution de 1868 a failli lui être fatale, et les 6 maisons existantes en Espagne des clarétins ont été fermées. Le père Crusade a été assassiné, était responsable. Mais l'énergie du supérieur général, le père Xifré, a sauvé la congrégation. Il a ouvert une maison à Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Je suis déjà encore allé à Prades, vous irez, je suis allé partout. Mais j'ai séjourné là, dans un monastère qui s'appelait Saint-Michel de Cuxa, qui existe toujours. Ce sont les bénédictins du Montserrat qui se sont installés là. Mais à l'époque, c'était des cisterciens de l'Immaculée Conception qui l'occupaient, et c'était vraiment décadent. C'est à Prades que vivait Pablo Casals aussi, hein, le grand violoncelliste. Et c'est là qu'il a réuni Antoine-Marie Claret, ses religieux, en attendant des jours meilleurs. Et à Paris, notre archevêque exilé s'est occupé de la colonie espagnole. Il a prêché un carême qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Mais depuis 1864, la maladie l'empêchait d'avoir une activité aussi grande qu'il aurait souhaité. En 1869, ça faisait déjà 5 ans qu'il était malade, il est parti pour Rome. Il a été reçu par le pape. Il a pris une part active aux travaux préparatoires du Concile du Vatican. Premier Concile du Vatican. Mais il faisait très chaud à Rome. Il fait extrêmement chaud à Rome en été. Je ne vous recommande pas d'aller là en été. C'est terrible. Alors, il y a eu une attaque de congestion. Ça a aggravé son état de santé. Au point que le père Xifré, le supérieur général de sa congrégation, lui a me supplier de venir se retirer dans leur maison de Prades. C'est en Catalogne française. Alors, il est arrivé là le 23 juillet, il s'est senti un peu mieux. Le 27 juillet, il a présidé la distribution des prix au petit séminaire. Vous vous souvenez de ces distributions de prix, c'était bien sympathique autrefois. Il a fait un discours en catalan et c'était la dernière fois qu'il a parlé en public. La haine de ses adversaires espagnols le poursuivait au-delà même des frontières, jusqu'en France. Alors là, l'ambassadeur d'Espagne a demandé aux autorités françaises qu'on interne ce pauvre vieillard. Et là, l'évêque de Perpignan, qui a été mis au courant, a invité saint Antoine-Marie Claret, archevêque, à quitter la maison de Prades. Quand le 6 août, la police s'est présentée, notre saint venait de partir. Il avait trouvé un refuge chez les cisterciens de Fontfroide. C'est Fontfroide, c'est près de Narbonne. C'est une abbaye très importante, autrefois, qui a été fondée en 1093. Ça a été restauré, cette abbaye. C'est pas loin de Carcassonne, disons. Et c'est là qu'il a voulu, autant que possible, s'unir à la vie de la communauté des cisterciens. Et son état empirait toujours. Il souffrait cruellement, sans jamais se plaindre, mais en priant continuellement. Puis il est mort au matin du 24 octobre 1870. Et son corps a été déposé dans le cimetière des moines à Fontfroide. Il a été transféré à Vic, en Catalogne, en 1897. Il a été béatifié en 1934. Il a été canonisé en 1950. Sa congrégation des clarétins a reçu confirmation de ses privilèges en 1824. Donc, il est mort il y a exactement 125 ans. Il y a des clarétins à Montréal, dans plusieurs paroisses, hein, dont à Saint-Angèle de Mérici. Il y a des clarétins remarquables au Québec, bien qu'ils soient très peu nombreux. Ils sont environ 3000 dans le monde. Ils ont des vocations à l'extérieur, malheureusement, du Québec. Ils n'en ont pas ici, mais ce sont des gens remarquables. Et on célébrera demain, je vous en parlerai, la pète du bienheureux Philippe de Jésus Mounaris et ses 50 compagnons claretiens qui ont été massacrés un 25 octobre en Espagne.